La chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.
Donc aujourd'hui je suis avec Manon Meunier, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ?
Alors bonjour, je suis Manon Meunier, je suis députée de la 3e circonscription de la Haute-Vienne, donc ça correspond à toute la partie nord à partir de Limoges, de la Haute-Vienne.
Ok, quel a été votre itinéraire avant de devenir députée ?
Alors avant de devenir députée, j'ai grandi dans la campagne limousine en Haute-Vienne. Et après, je suis partie faire des études à Nancy parce que j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie. Et puis, je suis revenue ici et j'ai été diplômée en pleine crise du Covid-19. Et pendant un an, j'ai bossé en tant qu'aide-soignante remplaçante. Donc, ça n'avait rien à voir, mais ça m'a beaucoup plu. Et puis après, j'étais chargée de mission en développement durable et accompagnement des territoires pour une communauté de communes. Et puis, je me suis engagée un an avant les législatives très fortement pour les présidentielles et pour faire en sorte de faire gagner les listes de gauche. Et puis, ensuite, j'ai été choisie par les militants pour être aux élections législatives.
Ok, justement, quelle motivation vous a poussé à vous impliquer en politique ?
Alors ça, c'est une histoire qui remonte à loin, parce que en fait, c'est en CM2 que je parlais beaucoup avec un maître d'école de tout ce qui me passait par la tête et de toutes les injustices de pauvreté et d'environnement aussi. J'étais très inquiète par rapport aux questions d'écologie. Et je lui disais, mais comment on peut faire pour régler tout ça d'un coup ? Qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Et c'est ce maître d'école qui m'avait dit, bah Manon, si tu veux régler autant de problèmes, il faut que tu fasses de la politique. Et il avait semé une petite graine dans ma tête. Mais alors après, pendant plusieurs années, je me suis demandé est-ce que je fais Sciences Po, etc. Et puis en fait, j'avais pas envie, c'était pas un milieu qui m'attirait vraiment. Et donc j'ai fait le choix plutôt de faire des sciences pour savoir de quoi je parlais concrètement. Et ensuite de m'engager politiquement, mais en tant que militante. Et c'est ce qui s'est passé. Mais j'avoue que je ne pensais pas que tout allait aller si vite à la fin. C'est grâce à la confiance des militants de terrain que j'ai réussi ensuite à me présenter aux législatives. Et donc, ça s'est passé très vite. Et aujourd'hui, je suis la plus jeune femme de l'Assemblée nationale.
Ok. Et l'idée de s'investir en politique est restée tout au long de votre parcours. Vous aviez cette idée en tête, justement ?
Oui, tout à fait. En fait, je me suis engagée plutôt dans des associations au début, de préservation de la biodiversité, de l'environnement en général. J'étais aussi investie via mon école d'ingénieur en agronomie sur les questions d'agriculture également. Mais je ne m'étais jamais engagée dans un parti. Et en fait, c'est les dernières présidentielles où je me suis dit, bon, maintenant, il y a urgence, en fait, où je me suis lancée à fond pour défendre la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, c'est par la suite que je me suis présentée aux législatives.
Et donc, vous venez de dire que vous êtes la plus jeune femme au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une réalisation dont vous êtes particulièrement fière depuis votre élection ?
Alors... déjà récemment, puisqu'on est dans une émission sur l'environnement, j'ai sorti un rapport d'une centaine de pages qui est une mission d'information officielle à l'Assemblée nationale et qui porte sur l'agriculture et la biodiversité. Et en fait, on a fait des auditions, on a auditionné plus de 60 agriculteurs, plus de 40 scientifiques pour essayer de trouver des solutions justement pour accompagner les agriculteurs face aux défis de chute de biodiversité qui entraînent aussi des chutes de rendement. Et puis pour accompagner en fait à la préservation des paysages, par exemple bocagers qu'on connaît ici en Limousin. Parce que malheureusement, le gouvernement n'accompagne pas ces modèles agricoles-là. Ici en Limousin, on est sur de l'élevage extensif. Et pourtant, qui est plutôt vertueux pour la biodiversité. Et pourtant, c'est les paysans les plus pauvres de France métropolitaine qu'on a ici en Limousin. Donc, on a un enjeu aujourd'hui à réorienter les aides gouvernementales pour aider ces modèles agricoles-là. Mais pour l'instant, Marc Fesneau, qui est le ministre de l'Agriculture, il va plutôt dans l'autre sens. Donc ce rapport, j'essaye d'en parler le plus possible parce que je sais que c'est un petit peu une épine dans le pied du gouvernement parce qu'il a été rejoint par la majorité. Et en fait, il fixe des mesures qui ne sont pas forcément en accord avec la politique gouvernementale, comme par exemple mettre des prix planchers pour les agriculteurs, donc assurer des prix minimums pour qu'ils aient un revenu digne, en fait.
Ok, ce rapport, Comment ça fonctionne? Vous avez mis ce rapport, il doit être examiné par quelqu'un, il y a un vote, je ne sais pas du tout quelle portée a ce rapport justement.
Alors ce rapport, c'est une mission d'information. Donc une mission d'information, c'est vraiment porté officiellement par l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que tous les groupes siégés avec nous, tous les groupes avaient un siège ou plusieurs qui leur étaient réservés pour siéger avec nous pendant les auditions des experts qu'on a rencontrés sur la thématique. Et il est porté au sein de la commission développement durable aménagement du territoire. Et il a été voté à la fin pour être publié. Donc là, il est publié sur le site de l'Assemblée. Donc c'est vraiment quelque chose d'officiel et de transpartisan. Et c'est pour ça que c'est important. C'est qu'en fait, tous les groupes ont été au courant et ont assisté aux auditions et ont voté le rapport à la fin. Donc il est reconnu quelque part de manière transpartisane. Donc aujourd'hui et maintenant, il doit influencer les politiques futures par rapport à ces questions d'agriculture et de biodiversité.
Donc, vous aviez évoqué que, avant d'être dans le monde politique, vous étiez dans le monde associatif. Et moi, qui ici ai reçu beaucoup d'associations, justement, j'aimerais bien essayer de comprendre le lien entre ces associations de protection de l'environnement et les instances politiques. Comment vous aidez justement ces associations à se faire entendre? Est-ce que vous avez un lien direct avec eux?
Alors, le lien avec les associations, il est très important. Moi, au départ aussi, si je voulais faire de la politique, c'est parce que je pense que c'est l'échelon auquel on peut essayer de faire bouger les choses. Et aujourd'hui, qui est un peu verrouillé par une certaine classe politique qui n'a pas les mêmes intérêts que les vrais gens, j'ai envie de dire. Et donc, on a intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de vrais gens qui s'engagent en politique. Et les associations en font partie et s'engagent de plus en plus, d'ailleurs, et ont de plus en plus de liens avec nous. Et donc... On a des échanges courants, que ce soit en local ou au niveau national. Ça se traduit, par exemple, concrètement, il y a un texte qui sort à l'Assemblée, une proposition de loi qui arrive sur la table, ou un projet de loi qui vient du gouvernement. Les associations regardent le projet de loi, se disent « tel élément, ça va vraiment être problématique pour l'environnement, tel élément, c'est dangereux pour la biodiversité. » Et là, ils nous interpellent. Et nous, on fait des amendements, donc on fait des propositions concrètes pour modifier le texte. Et puis en interne à l'Assemblée nationale, on essaye de voir avec les autres groupes si on ne peut pas essayer effectivement d'avoir une majorité pour voter le changement. Si je dois donner un exemple concret, par exemple, en termes environnemental, il y a eu un projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables il y a quelques mois, qui avait été proposé par le gouvernement. Ce projet de loi, pour moi, il est très problématique parce que... en fait, ça pousse à accélérer les énergies renouvelables, ce qui est positif d'un point de vue climatique, mais ça le fait aux dépens de la démocratie et aux dépens de la biodiversité. Parce que ça ne va pas prendre en compte... Ça raccourcit les délais, donc ça raccourcit les délais démocratiques et ça raccourcit les délais d'expertise environnementale. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'on se dit d'un côté, on accélère pour le changement climatique, ce qui peut se comprendre, mais ça ne doit pas se faire aux dépens de la biodiversité parce que la biodiversité, c'est le socle du vivant et en fait, on en dépend tous autant que le changement climatique. Mais sauf que derrière, c'est qu'il y a des intérêts financiers. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait, c'est un service public du pôle de l'énergie pour justement qu'il y ait une réflexion globale, alors qu'aujourd'hui, les éoliennes, les panneaux, etc., c'est beaucoup entre les mains de promoteurs privés qui réfléchissent pas forcément justement en termes d'impact que ça peut avoir derrière. Et donc, ça peut poser ces questions-là. Et donc là, les associations environnementales nous ont, par exemple, interrogé, interpellé, on a échangé avec elles aussi pour savoir quelles étaient les meilleures modifications à faire par rapport à l'environnement. Et en combattant ensemble, on n'a pas, par exemple, réussi à faire en sorte de mettre dans la loi l'obligation de faire une carte qui répertorie, qui prenne en compte les zones de tension en biodiversité dans les zones maritimes, en fait, parce que le gouvernement prévoit d'implanter plein d'éoliennes en mer. Ce qui peut être une solution, effectivement. Mais il prévoyait de le faire n'importe où, sans prendre en compte les zones riches en biodiversité. Et bien là, on a réussi à faire en sorte qu'une cartographie de la biodiversité soit faite pour prendre en compte ces zones-là dans l'implantation des éoliennes.
C'était la chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.